Le yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors, il y a Hanouka qui se rapproche à grands pas, mais là, on va parler de la journée de la Viso,
oui.
La journée du livre de la Viso, qui cette année, c'est vrai, a lieu à la fin de Hanouka.
Oui.
Donc,
le dernier jour de Hanouka.
Le dernier jour de Hanouka.
Vous attendez pour faire vos cadeaux.
Oui, voilà.
Et vous faites le dernier soir de Hanouka.
Voilà. Oui, d'habitude, ils le font toujours avant, quoi, ou au milieu de Hanouka. Bon, voilà, ça, c'est les problèmes d'organisation, bien sûr. Donc, cette journée du livre de la Viso est un événement mondain, mais aussi, on peut dire, intellectuel, et puis aussi l'occasion de très belles rencontres. C'est là que vous pouvez retrouver des gens que vous n'avez plus vus depuis le lycée ou même avant, quoi. Voilà, donc je sais que la première fois que j'y suis allée, moi vraiment, c'était, j'ai rencontré des personnes que je n'avais plus vues depuis longtemps. Et puis j'ai trouvé ça tellement sympathique que maintenant j'y vais chaque année, même si je n'ai pas de livre à présenter. Et donc, voilà, donc ça a lieu. Alors, ça a lieu cette année, donc le dimanche 5 décembre, de 10h à peu près, je crois que ça commence à 10h, ensuite ça se termine vers 17h. C'est au CIC, je crois.
Oui,
c'est
le hall de la banque.
Dans
ouais.
une banque qui est
au
Wacken, voilà, on le repère facilement. Bien sûr, si vous venez en tram, vous vous arrêtez à l'arrêt Wacken et puis vous remontez la rue. C'est toujours très sympathique. D'abord, il y a beaucoup d'auteurs, il y a des conférences très intéressantes. Il y a aussi toujours un buffet bien garni par les dames de la Viso
oui.
qui fabriquent leurs spécialités. Donc, si vous voulez y passer la journée, vous pouvez tout à fait vous arrêter, manger, et puis ensuite acheter des livres, écouter des conférences. Voilà, c'est vraiment un lieu de très, très agréable. En plus, les locaux sont très, très sympathiques.
Oui, c'est vrai. Il y a des bijoux aussi. Vous pouvez acheter des bijoux.
Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez effectivement, comme dit Astrid, acheter des bijoux. Voilà, donc tout cela, évidemment, au profit de l'association La Viso, qui est une association de femmes qui se préoccupe surtout du bien-être des enfants en Israël, qui existe depuis longtemps, qui existe dans le monde entier. Et qui est une association très active. Elles désignent aussi chaque année il y a un prix Viso qui récompense un auteur. Cette année, c'est Boris Cyrulnik. Voilà. Donc et elles ont toutes aussi un intérêt très important pour les livres. Hein. Donc elles ont des cercles de lecture. Et puis elles organisent. Donc je dis oui à Strasbourg comme à Paris aussi et peut-être aussi dans d'autres villes certainement ces journées du livre de la Viso toujours très intéressantes où d'ailleurs les auteurs viennent très facilement parce qu'ils savent qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils vont vendre des livres et puis qu'ils auront aussi l'occasion parfois de faire des conférences et en tout cas de rencontrer des lecteurs intéressés. Voilà, alors nous allons parler de deux livres essentiellement. Bon, nous avons déjà parlé du livre que j'ai traduit, hein, donc qui s'appelle Eva Fastag, le dernier témoin, qui a été édité par Serge Klarsfeld, que vous pourrez trouver à cette journée du livre, puisque c'est un livre qui n'est pas diffusé en librairie, donc... c'est vraiment l'occasion de l'acheter, qui est consacrée donc à Eva Fastag, qui est une femme que nous avons bien connue, Astrid et moi, et qui a passé 2 ans dans le camp de Malines, qui était l'équivalent du camp de Drancy en Belgique, et qui ensuite est partie vivre en Israël, où elle vient de décéder en août à l'âge de 104 ans. Voilà. Donc, elle a été interviewée en 2019 et elle a raconté ses souvenirs qui étaient encore tout à fait clairs. Donc, un historien qui s'appelle Peter Serien, qui a sorti le livre en néerlandais. Et il a été traduit donc en français. Et il sera présent donc à la Viso. Alors, une autre survivante de la Shoah, c'est donc la mère de Daniel Lofer. C'est le livre dont nous allons parler. Donc, Danielle Laufer, c'est à la fois une journaliste, une écrivaine, qui a écrit de nombreux livres. Et c'est aussi une amie très proche. Alors, je vais peut-être vous raconter un petit peu notre liaison avec nos relations avec Danielle Laufer.
Et cette mère qu'on a bien connue. Hein,
et cette ça, mère, hein. Voilà, c'est ouais. ça. Donc, Danielle Laufer et ses parents étaient donc faisaient partie, comme nous, de ces Juifs ashkénazes installés au Maroc. N'étions pas très nombreux, mais enfin, il y en avait quand même. Et donc, Daniel et sa sœur André, qu'on tout le monde appelait Koussi, avaient le même âge qu'Astrid et moi, donc et nos parents étaient amis. Et donc, j'en parle parce que, en particulier, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la Shoah par ma mère, puisque la maman de Daniel était quelqu'un d'assez bizarre. Donc, alors, je m'en souviens, c'était une grande femme, très, comment dire, sévère, qui me faisait un peu peur. On n'avait pas beaucoup de relations avec elle, quoi. Elle n'était pas du tout affectueuse, comme était notre maman. Elle ne nous parlait quasiment pas, mais je vois à peu près sa silhouette. Et maman disait d'elle, la pauvre, elle a été déportée. Voilà, donc je savais que cette dame avait vécu des événements extrêmement tristes et violents. Et puis, voilà, donc c'est, si je peux dire, le premier contact que j'ai eu avec, avec cet événement. Et donc, Daniel a d'abord écrit... D'abord, Daniel a eu une enfance très triste. Donc, elle a beaucoup souffert de cette mère, de l'attitude de cette mère qui était très froide, très absente, qui avait de temps en temps même des accès un peu de violence envers elle, qui lui disait des choses méchantes. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Donc, elle était aussi souffrante, Danielle. Elle avait de l'asthme quand elle était petite. Et voilà, cette enfance difficile, elle a fini par comprendre donc, que sa mère avait été déportée. Et dans les années 70, elle a interviewé sa mère. Et elle a sorti un livre qui s'appelle « La vie empêchée », qui est donc l'histoire de sa mère, de ce qu'elle a pu lui raconter. Mais elle a quand même réussi à en parler avec elle. Et là, elle vient de sortir donc ce livre qui s'appelle « Venir après, nos parents ont été déportés ». Alors, c'est un mélange entre sa propre expérience et puis elle a fait des interviews de personnes dont elle sait qu'ils ont été déportés, dont les parents, pardon, ont été déportés. Donc, ça fait partie de cette catégorie de gens donc, dont les parents... Un des parents, hein, en général un, mais ça peut être aussi
des
les
fois
deux.
Deux oui.
Parfois les deux ont été déportés et sont revenus, bien sûr. Hein. Donc, c'est pas... Enfin, je veux dire, on sait bien que les déportés juifs sont revenus en petit nombre, mais bon, il y en a quand même qui sont revenus. Et donc, qui ont... donc, quelle était leur attitude envers leurs enfants? Alors, elle interviewe aussi des gens d'un certain âge, hein, c'est-à-dire qu'entre-temps, ces enfants de déportés ont eux-mêmes 70 ans à peu près, 70, même 80 ans. Voilà, donc ce sont des gens qui ont déjà mené leur vie et qui ont une capacité d'analyse, de retour sur ça, puisque bon, la souffrance qu'ils ont éprouvée pendant qu'ils étaient jeunes, ils l'ont... à ce moment-là, c'était très difficile pour eux de l'exprimer. Et souvent, ça s'est exprimé par des malaises, par des maladies. Et puis, peu à peu, ils ont pu se construire. Et ce sont en général des gens qui ont un bon niveau intellectuel. Il y a beaucoup qui sont psychiatres ou psychologues ou écrivains. Mmh. Et ils peuvent vraiment analyser ça de façon très, très intéressante et très... Comment dire Oui, sans violence, enfin sans rancœur envers leurs parents, puisqu'ils ont enfin compris ce qui s'était passé pour leurs parents. Et Daniel est un des exemples de ces personnes, et les autres aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Astrid. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ont sublimé ça, on peut dire, hein, par l'étude ou par l'art aussi. Hein. Il y a aussi quelqu'un qui est peintre, je crois, ou écrivain. C'est vrai, puis avec le recul. En plus, c'est très intéressant parce que les témoignages sont très différents évidemment les uns des autres, bien qu'il y ait des choses en commun. Mais cette violence, ce que nous on a ressenti de cette Madame Lofer, Anne Lofer, ne se manifeste pas toujours chez d'autres personnes. Des fois, c'est au contraire un surinvestissement,
surprotection,
peur de tout, ne sors pas, tu vas non seulement attraper froid, mais bien pire. Les réactions sont évidemment très différentes. Ça dépend aussi peut-être de l'histoire de chacun avant cette déportation. Parce que si le livre que Anne Lofer, pardon, que Daniel Lofer a consacré à sa mère s'appelle « La vie empêchée », c'est parce qu'elle sortait d'un milieu de la bourgeoisie allemande, très protégée, très privilégiée, très intellectuelle. Elle était promise à être comédienne, à faire une carrière dans le théâtre, puisque son père était directeur d'un théâtre, je crois. Elle adorait ça, elle était très douée pour tout. Elle lisait les grands textes, elle avait déjà commencé à jouer quand tout ça est arrivé. Et ensuite, c'était vraiment trop tard pour qu'elle puisse encore faire quelque chose. Elle s'est mariée, elle a eu ses deux filles et... Je crois qu'elle ne faisait rien au Maroc. Bon, c'est encore l'époque où les femmes ne travaillaient pas tellement. Elle était, je me rappelle, aussi une femme très élégante, exagérément élégante.
Attends, elle t'en souviens de... Ah oui, c'est ce que dit Daniel. Elle avait toujours des hauts talons. Donc, par exemple, quand ils allaient se promener, elle restait dans la voiture, elle ne se promenait pas. Bon, en particulier parce qu'elle ne pouvait pas, ne serait-ce qu'avec ses hauts talons. Mais enfin, elle aurait pu mettre des chaussures normales. Oui, alors ça, c'est peut-être une réaction aux conditions de déportation.
Ça aussi, ouais. Peut-être aussi par rapport au Maroc, où voilà, elle arrivait... Autre transplantation, peut-être pas évidente non plus. Notre maman, elle n'avait pas vécu ça si mal, mais elle, avec la psychologie qu'elle avait, on peut aussi imaginer que c'était très dur aussi d'arriver dans ce pays moins élevé, moins éduqué que son Allemagne natale. Alors, ça, elle est allée de désenchantement en désenchantement, on peut dire. Voilà pourquoi ce livre s'appelle très joliment, d'ailleurs, « La vie empêchée ».
Voilà, on va peut-être écouter une musique.
Alors, ça va être un peu un contraste un petit peu brutal, parce que j'ai pas pris des musiques vocales cette fois-ci, j'ai pris des musiques instrumentales, puisque je savais qu'on allait parler de choses très différentes. Donc voilà, c'est une danse moldavienne, Frailers, qui sort d'un recueil, d'une compilation de différents groupes qui font de la musique klezmer. C'est un disque qui date de 2008, et voilà, c'est tous des très très bons musiciens. Alors voilà, un Frailers, c'est une danse très joyeuse.
Daniel Lofer, je vois là. Donc, ce livre est paru aux éditions du Faubourg, dans la collection Documents, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et oui, Daniel a publié de nombreux ouvrages, comme L'année du phénix, La poupée du phénix, la première année de la retraite, hein, ça va ensemble. Voilà, c'est en fait, bon, bah, comme ça le dit, comment réagissent les gens après la retraite. Donc, c'est aussi des interviews. Et puis, Toko Tsubo, à chagrin de travail. Alors, ça, c'est aussi un travail très intéressant sur un phénomène peu connu qui fait que des personnes qui ont des gros soucis au travail ou dans leur vie personnelle peuvent avoir des problèmes cardiaques extrêmement importants et qu'il faut savoir diagnostiquer sans qu'il y ait d'antécédents cardiaques, sans qu'il y ait vraiment de maladie avant. Et tout d'un coup, ils ont un problème de cœur qui est vraiment lié à cette douleur. Alors, le livre de Daniel Lofer a eu une très bonne réception, en particulier dans la presse. Il y a eu vraiment des articles un peu partout. Et là, je prends par exemple l'article qu'il y a eu dans Le Monde. Donc, c'était en février 2021, bien sûr, juste après l'apparition du livre. « L'ombre de la déportation, d'en venir après, Daniel Lofer, fille de déportée, a enquêté sur les effets de cette condition douloureuse. » Alors, je vais vous lire quelques extraits. D'ailleurs, je vais lire plutôt des citations que cite donc Marc Semo qui a écrit l'article. « Les anciens enfants que nous sommes s'interrogent toujours sur ce silence qui a ouaté leurs premières années, comme si leurs parents les avaient trompés en leur cachant cette abomination et les souffrances que nous ne pouvions qu'imaginer quand elles n'ont jamais franchi le seuil de leurs lèvres. » Donc, elle questionne une vingtaine de témoins qui ont connu comme elle une jeunesse hantée par un passé innommable, sinon par allusion. Et donc elle interroge Alain Ehrenberg, qui est sociologue, des cadres et dirigeants de sociétés, fonctionnaires, médecins, femmes au foyer. Certains parents, donc je recite Daniel Lofer, certains parents n'ont jamais su ou pu nous prendre dans leurs bras et nous serrer contre eux avec l'amour et la chaleur qui nous auraient donné la sécurité intérieure et la confiance nécessaire à la joie de vivre. D'autres, et ce sont parfois les mêmes, avaient des tempéraments déstabilisants qui faisaient peur. Oui, il y a une des personnes interviewées qui cite comme ça la violence de son père, quoi. Vivre après, c'est sentir toujours ce poids écrasant. Il est d'autant plus que cette génération née dans l'après-guerre hérite non pas de l'expérience directe de l'horreur, mais de son ombre. Et il cite là un livre de Eva Hoffman, qui s'appelle « La Shoah en héritage ». Parfois, lutter avec des ombres peut être plus effrayant, plus déroutant que lutter avec des réalités solides. Et Daniel Lofer termine « Par notre existence, nous leur avons prouvé à la fois qu'ils étaient en vie et qu'ils le méritaient, et en même temps, nous leur rappelions leur mort. » Voilà, donc c'est ce côté paradoxal finalement du fait d'avoir des enfants après la Shoah. C'est à la fois la preuve qu'on est vivant et puis que la vie continue et que le nazisme n'a pas gagné, hein, qu'il y a de nouveau des enfants juifs sur Terre, mais c'est aussi pour ces personnes déportées quelque chose d'insupportable. Enfin, pour... Bon, en tout cas pour la mère de Daniel et pour aussi les parents des personnes qu'elle interviewe. Voilà, donc c'est un livre, oui, plein de sensibilité, très bien écrit, je voulais dire, très très agréable à lire, très bien écrit. Et je trouve que l'alternance et le mélange entre sa propre expérience et celle des autres est très réussi. Et elle explique aussi pourquoi les gens se sont confiés à elle, parce que justement, ils savaient qu'elle avait vécu la même expérience. Voilà, un livre plein de sensibilité. Mmh. Alors, rien à voir avec le yiddish, hein, je dois quand même le dire. Contrairement au livre d'Eva, hein, puisque ce n'est pas mentionné dans le témoignage qu'elle fait, mais notre amie Eva ou Evi Fastag Dobrouchkes, c'était une excellente yiddishisante. Voilà, donc, mais par contre, là, on est dans une famille allemande, vraiment, où on ne parlait pas un mot yiddish et où même l'évocation du mot yiddish aurait été assez pénible à la pauvre maman de Daniel.
Oui, comme à la nôtre.
Comme à la nôtre.
Mais parmi les gens qu'elle a interviewés, pardon, il y en a, oui, qui venaient plutôt de familles d'origine polonaise et chez qui on parlait le yiddish. Mais c'est vrai que ce n'est pas le thème. Il n'y a pas ce n'est pas l'histoire de la transmission du yiddish ou non, n'est pas très abordée dans, là-dedans, il ne s'agit pas de ça.
Oui, mais c'est vrai, tu as raison, on a quand même un lien de ce côté-là, c'est-à-dire que, oui, il y a certainement des gens, bien sûr, des gens de famille d'Europe de l'Est, évidemment. Mmh. Oui, alors je voulais parler aussi brièvement d'un autre ouvrage, puisque c'est une autre amie qui sera là, qui s'appelle Eugénie Wegleris, donc là non plus rien à voir avec le yiddish. C'est une... alors, Eugénie Wegleris, c'est une philosophe qui a enseigné, qui a ensuite fondé le premier cabinet de philosophie à Strasbourg, c'est-à-dire qu'elle s'est installée comme philosophe, donc ce qui était fort original, puisque en général les gens s'installent comme psychologue ou médecin, voilà. Mais elle, elle est philosophe, donc elle a quitté l'enseignement pour faire un cabinet de philosophie. Donc elle recevait des gens qui avaient des problèmes, des questions existentielles, et puis elle essayait de les éclairer. Ensuite, elle a travaillé avec des entreprises, avec des groupes, pour donner un éclairage philosophique sur des questions éternelles, sur le sens de la vie et sur aussi le sens du travail. Qu'est-ce qu'un groupe ? Qu'est-ce qu'une entreprise ? Bon, c'est une personne très chaleureuse, très sympathique, donc qui a très, très empathique aussi, vraiment qui s'intéresse vraiment aux autres et qui peut... qui a un excellent contact, et donc je pense que c'est une des sources de sa réussite. Et elle a écrit plusieurs ouvrages, et là le dernier ouvrage qu'elle a écrit parle de la rencontre intellectuelle, bien sûr, entre Hannah Arendt et Edgar Morin. Donc c'est un petit livre, on peut dire, d'introduction à la pensée de ces deux auteurs. Alors, elle sera présente à la journée de la Viso, et aussi parce que son livre, si on peut dire, fait écho ou tombe en même temps que le Cahier de Lerne consacré à Hannah Arendt, qui vient de sortir. Donc, voilà, encore une présence, en tout cas très sympathique, à la journée de la Viso. Voilà.
Est-ce qu'elle va faire une présentation de son livre ?
Non, il n'y a pas de présentation prévue, hein, donc elle sera un des stands, en même temps, enfin, si je puis dire, que le Cahier de l'herbe, voilà, ça tombe bien. Et voilà, donc il n'y a pas de... Mm-hmm. On n'a pas la liste des conférences,
on ne sait pas encore,
je pense que ça va finir par arriver. Oui. En tout cas, on peut vraiment aller là-bas les yeux fermés, oui. Je trouve, parce que c'est toujours très très intéressant.
Oui,
il y a toujours plein d'auteurs, plein de gens aussi.
Oui, et d'excellents gâteaux.
Oui, et des bons gâteaux, voilà. Et on va illustrer ça par une musique.
Par le fameux Giora Feidman, qu'on peut appeler un des premiers, le
précurseur
oui, ou premier pionnier. Passeur, ouais, de la musique klezmer avec sa clarinette. En Allemagne surtout, il a eu un succès complètement fou. Il est d'origine argentine, mais il a surtout beaucoup joué en Allemagne. Il a vraiment transporté les foules. Les gens découvraient le klezmer à travers lui. Il y va aussi sur les effets, des fois un petit peu faciles. Il a joué de sa célébrité pour faire des choses assez populaires. Mais bon, c'est super quand même. Il a enregistré beaucoup de CD et surtout fait un nombre incalculable de concerts. Donc de Giora Feidman, c'est aussi quelque chose d'assez joyeux. Dancing with the Rabbi, danser avec le rabbin, le Rebbe.
Voilà,
voilà donc, notre Giora Feidman.
Alors, quelques annonces encore.
Non, mais surtout à propos de klezmer, parlons-en. Il y a un concert klezmer, donc dans cette salle que j'appelle la Maison du Bon Dieu. Donc, c'est la salle où nous jouons aussi, enfin, nous répétons et où je fais le concert, la série de concerts sur les fêtes juives. Donc, elle est aujourd'hui même, 28 novembre à 18h, mais vous, peut-être vous recevez l'annonce un petit peu tard. En tout cas, ce vendredi 3 décembre à 20h, dans cette même salle, donc c'est l'église Saint-Pierre-le-Vieux protestante en bas de la rue du 22 novembre, il y a un concert klezmer. Alors allez-y, il faut...
Mais on peut peut-être te rappeler aussi que tu fais la présentation des fêtes au musée alsacien.
Ah oui, hein, ça c'est la semaine prochaine, le 4 décembre à 18h également au musée alsacien. Donc ça c'est un samedi et c'est l'avant-dernier jour de Hanouka. Donc
venez, c'est après Shabbat.
Voilà, venez allumer les bougies avec nous.
On vous dit Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem et merci Lucas.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.